Parlons maintenant d'un groupe très spécial, les Illuminati. Dans les murlis, on trouve des petites phrases comme « Ils sont prêts pour la destruction ». Est-ce que vous êtes prêts? Vous devez fixer une date. On peut se demander qui sont ces « ils » dont on parle. Est-ce qu'il existerait sur Terre des groupes qui souhaiterait la destruction? Ce serait quand même curieux. Eh bien oui, effectivement. Il est facile de les trouver sur l'Internet. Je vous présente les Illuminati. Les Illuminés. On les connaît sous plusieurs noms. Un des plus célèbres est le Nouvel Ordre Mondial, The New World Order. Un autre nom, les différentes sociétés secrètes, dont une très célèbre, les francs-maçons. Les eugénistes, les nazis, le gouvernement occulte ou gouvernement secret, les banksters, le grand capital, le gouvernement de l'ombre, les chapeaux noirs, the black hats. Un autre très célèbre ces temps-ci, c'est la cabale, l'élite, les grandes corporations, etc. Ces organisations et individus représentent le 1% le plus riche de la planète, possédant la grande majorité des richesses de notre bonne vieille terre. On dit qu'ils font la pluie et le beau temps, organisant des guerres, des crises, la drogue, finançant le terrorisme, hypothéquant la santé et l'environnement, etc. Cette élite richissime trouve qu'il y a beaucoup trop de monde sur Terre, que cela devient difficile de les contrôler et souhaitent ardemment réduire drastiquement la population mondiale. Plusieurs en parlent ouvertement et de nombreuses tentatives ont déjà été faites récemment. Jusqu'à date, cela n'a pas bien fonctionné. Heureusement pour nous, il semble que Dieu et des entités très bienveillantes veillent à notre sécurité. On peut regarder, en particulier sur YouTube, notre célèbre Bill Gates, qui explique que les vaccins sont des outils de choix pour la dépopulation. Un des projets est de provoquer l'effondrement simultané de toutes les monnaies. Un autre est une fausse opération d'attaque par des extraterrestres. Un autre est une guerre nucléaire. Un autre, une grande guerre des religions. Un projet en cours actuellement est la modification de la nourriture avec les OGM pour affaiblir tout le monde. Un autre projet en cours est la junk food qui supprime les éléments nutritifs des aliments. Encore là, c'est pour affaiblir la population et utiliser ensuite des vaccins et des bactéries pour la réduire. Un autre est un virus mortel. Je lisais récemment sur l'Internet, sur un site français, par un grand médecin spécialiste des parasites, que la plupart des nouveaux virus et bactéries et prions, etc., ont été fabriqués près de New York dans un des laboratoires secrets. En particulier, on peut parler de la vache folle. Un autre projet en cours est l'introduction de substances dans les vaccins qui provoquent des maladies. L'autisme grimpe maintenant en flèche. On a répandu le sida de cette façon. Un autre projet en cours est la pollution de l'air par des nanoparticules dans les chemtrails. On peut voir que la créativité humaine, stimulée par des milliards de dollars, est extraordinaire. Quand je vois la swastika sur l'ancien poster indien du cycle, cela me laisse songeur. Est-il possible que Dada Lekraj ait été en contact avec des Illuminati? Mais bien sûr, oui, absolument. Il était un ami de la famille royale d'Angleterre, qui est bien connu comme un des principaux leaders des Illuminati. Il est aussi intéressant de noter la similitude entre le drapeau des Brahma Kumaris et celui utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale par les Japonais. Le Japon a été le premier pays où un centre Brahma Kumaris a été ouvert, en dehors de l'Inde, alors que la culture japonaise est très différente de la culture hindoue et très imperméable aux influences. Est-ce qu'il existe d'autres religions semblables aux Brahma Kumaris qui auraient un petit peu la même philosophie? On sait que la plupart des personnes riches et puissantes sont des membres des francs-maçons ou d'autres sociétés secrètes, qui sont elles-mêmes très liées aux Illuminati. Quand on étudie un peu les religions chrétiennes récentes, on peut noter des similitudes avec celles des Brahma Kumaris. Par exemple, les témoins de Jéhovah parlent de destruction et vont être les élus du paradis. Ou les Mormons, appelés aussi les saints des derniers jours, parlent aussi de destruction et eux vont régner sur d'autres planètes. Historiquement, ces deux religions ont été fondées et financées par des francs-maçons, donc par les Illuminati. Est-ce qu'il y a eu des préparatifs physiques en vue de la destruction? Les Illuminati, directement ou indirectement, ont fait construire au moins 150 bases souterraines gigantesques, incroyables, principalement aux États-Unis, qui sont appelées DUMBS, D-U-M-B-S. Elles sont à plusieurs kilomètres de profondeur et équipées pour la survie de probablement 1 million de personnes. Elles sont reliées entre elles par des trains souterrains à très grande vitesse. On parle de quelque chose comme Mach 2. Les places y sont déjà réservées pour l'élite, payées par les milliers de milliards de dollars volés aux citoyens états-uniens. Je doute qu'il y ait beaucoup de biquets de prévus. Cette élite a donc bien des chances de devenir les futures déités. Et les biquets danseront dans le bonheur dans les régions subtiles. C'est peut-être aussi bien comme ça d'ailleurs. On pourrait peut-être contacter les Illuminati et leur expliquer que nous sommes les futures déités et donc que ce serait un bon karma de nous faire une petite place à l'abri. Contrairement à d'autres groupes qui parlent de destruction, je n'ai jamais vu une page web biquée pour la préparation physique à la survie. Il y a de vagues instructions pour avoir des provisions pour quelques mois, mais on peut voir que la survie n'est pas l'objectif visé. Tout le monde est supposé mourir en une seconde. On se demande après ça, pourquoi les services de renseignement de différents pays nous ont à l'œil? Il est aussi intéressant de noter qu'une autre qualité, très à la mode ces temps-ci parmi les Lekkis, n'est jamais citée parmi les vertus des biquets. C'est la résilience. Cette capacité à survivre, à continuer et à reprendre le dessus. Et quand on regarde la philosophie générale des Illuminati, on peut voir beaucoup de similitudes avec la philosophie des Brahma Kumaris. Est-ce une coïncidence? Parlons maintenant de Dieu et de la destruction. Je suis très chanceux, car j'ai depuis le début de ma vie brahmine de nombreuses expériences spirituelles. J'en resterai toujours très reconnaissant envers cette belle famille et cette institution. La semaine dernière, dans une de mes nombreuses expériences avec la lumière sublime, l'âme suprême, sous sa forme féminine, je ressentais particulièrement sa gentillesse, sa douceur, son amour indescriptible et surtout sa non-violence illimitée. Je suis sûr que c'est la même expérience pour tous ceux qui entrent en contact avec l'énergie divine. Quand je me pose ensuite la question, est-ce que la source, l'être parfait, la lumière, souhaite la mort de 7 milliards 400 millions de terriens? La réponse est évidente. C'est impossible. C'est un non-sens. Quand on commence à y réfléchir, on se trouve devant cette simple évidence. Le Père éternel, la Mère divine, ne peut pas vouloir la destruction. Même si les compagnies d'assurance nous ont habitués à traiter les grandes catastrophes comme des « acts of God », des actions de Dieu, pour éviter de rembourser les dégâts, quand on y pense un peu, la danse de Shiva n'a pas vraiment de sens. Vouloir justifier la destruction par la volonté de Dieu est une aberration, une insulte, une hérésie. Comme dans d'autres religions, c'est transformer Dieu en criminel. Cela ressemble à ces légendes où on faisait croire à certains peuples que le sacrifice d'une jeune vierge attirerait la bienveillance de Dieu. Quelle sorte de Dieu? Un reptilien? Pourtant, chaque biquet l'accepte comme une évidence. Les Murlis disent que le cycle est plus puissant que Dieu lui-même et que Dieu a hâte que ça finisse. Faites des efforts pour que la destruction arrive bientôt. On croit rêver. Ça risque effectivement de tourner au cauchemar. Parlons un petit peu de Brahma, Vishnu et Shankar. Dans la philosophie officielle, originellement enseignée par Brahma Baba, la Trimurti est beaucoup plus qu'un symbole. C'est l'association de trois âmes avec trois rôles différents. Je possède de vieilles copies de Sakarmurli disant explicitement que Brahma, Vishnu et Shankar sont des âmes, des esprits avec un corps subtil. Brahma Baba, à la fin de sa vie, l'enseignait encore. Dadi Gulzar l'a expliqué à Paris il y a longtemps. J'ai moi-même assisté à une classe de Mohini Ben de New York, à Madhuban, sur le sujet, qui disait exactement cela. Comme beaucoup, j'ai longtemps pensé que ces personnages étaient seulement des symboles hindous. Maintenant, j'ai changé d'avis. Je crois que effectivement Brahma Baba avait raison et que ce sont trois âmes qui interviennent dans les Avyat Murli, l'organisation et dans la vie des biquets. Nous avons donc en réalité cinq âmes qui jouent des rôles dans cette religion ou qui sont supposées jouer des rôles. Peut-être qu'il y en a plus que ça. Donc nous avons Brahma, Brahma subtil, Vishnu, Shankar et Shiva. Le poster sur la Trimurti situant ces trois âmes à différents niveaux des régions subtiles est un des plus intéressants et instructifs. Mais qui sont ces trois éminences grises? 1. Brahma. Bien sûr, on connaît bien Brahma Baba, cette belle âme très puissante, médium de demi-trance, fondateur officiel physique des biquets. Mais Brahma Baba et Brahma Subtil sont deux âmes différentes. Ce dernier semblait la forme parfaite de Brahma physique. Brahma Baba envoyait des sœurs en transe pour demander des précisions à Brahma Subtil. Il considérait donc que celui-ci était soit Dieu, soit une âme très puissante parlant au nom de Dieu. Au décès de Brahma Baba, les deux ont, paraît-il, fusionné pour, par un tour de passe-passe mystérieux, ne devenir qu'une seule âme. C'est de la vraie magie. On sait comment il est facile à des esprits de prendre une forme ou une autre et de prétendre être telle ou telle personne. Il leur est aussi très facile de nous donner toutes sortes d'expériences. Je conseille à chacun de lire les livres d'Alan Kardec, d'origine française, en particulier Le monde des esprits et Le monde des médiums. Ce sont des mines d'informations. Écrit à la fin des années 1800, les esprits y expliquent, en détail, qu'on est des âmes incarnées et qu'on a un corps subtil. Alan Kardec et son équipe prenaient toujours beaucoup de précautions quant à l'identité des esprits qu'ils contactaient. Ils leur demandaient toujours des preuves de leurs identités. Numéro 2. Qui est Vishnu? C'est une âme qui est supposée soutenir le yagya, le feu sacrificiel, et donc tous les aspects de cette institution, que ce soit le yoga ou le service. Mais à part cela, on n'a pas vraiment de détails. Il semble très occupé et on l'a représenté pour cela avec quatre bras. Numéro 3. Et Shankar. On ne connaît pas grand-chose de Shankar non plus. Dans la représentation des régions subtiles, il est représenté comme le plus subtil, le plus incognito. Tellement qu'on n'en parle pratiquement jamais. On le représente en profonde méditation. Dans l'hindouisme, Shiva et Shankar sont des noms différents pour une même entité. Le Gange de la connaissance émerge de son chignon, donc de son cerveau. Est-ce que ce serait Shankar qui, à l'origine, aurait eu l'idée de ce cycle? Quand on regarde l'image de la Trimurti, on peut voir que Shankar est dans une autre dimension, plus élevée, plus subtile et donc plus puissante que les autres. En effet, selon cette connaissance, plus c'est subtil et plus c'est puissant. On peut donc dire qu'il y a une sorte de hiérarchie. Shankar est le plus puissant, c'est le boss. Il est plus puissant que Vishnu, qui est lui-même plus puissant que Brahma subtil, qui donne lui des instructions à Brahma Baba. Donc, un esprit qui est axé sur l'idée de la destruction supervise la création et le soutien de cette organisation. Intéressant, intéressant, mon cher Watson. En réalité, ces trois personnages de la Trimurti ne nous donnent pas vraiment la vraie réalité de ce qui se passe. Combien d'esprits sont vraiment impliqués dans cette organisation? Et surtout, qui sont vraiment ces esprits? Cela pourrait très bien être des visiteurs de l'espace, avec une super technologie, qui font différentes expériences sur nous. Qui sait? On sait que les esprits prennent des noms en fonction des cultures qu'ils veulent influencer. Un conférencier très crédible disait récemment que les Illuminati sont contrôlés par les reptiliens, ces extraterrestres un peu spéciaux, qui sont eux-mêmes contrôlés par les archons, des extraterrestres beaucoup plus subtils et très négatifs. Ces derniers sont de purs esprits sans corps, qui n'ont pas de bonnes intentions. Shankar fait-il partie de ces archons? Est-ce qu'il est un démiurge ou une intelligence artificielle? Je ne sais pas. Mais c'est un sujet important à approfondir. Je suis ouvert aux informations. En conclusion, les biquets sont-ils des instruments de Dieu ou des instruments des Illuminati? Quelques réflexions. Tout cela me fait penser à ces scientifiques ou militaires qui ont consacré leur vie à la science ou à leur pays et qui ont travaillé dans le secret. Un jour, ils se réveillent en réalisant qu'ils ont involontairement participé à la création d'une arme horrible ou d'une société fasciste. Quand ils sont capables de parler en public et de ne pas être éliminés, on peut voir que ce sont des personnes profondément intègres, emplies de regrets, dont l'intelligence et la bonne volonté ont été pires. pirater et détourner vers un objectif aux antipodes de leurs intentions. Par exemple, les gentils Canadiens, qui veulent la paix dans le monde, avaient préparé à la demande de Churchill assez d'anthrax pendant la Seconde Guerre mondiale pour envoyer 1 million de bombes contaminées sur l'Allemagne. Mon cher petit père, alors prisonnier là-bas, a failli goûter à la paix made in Canada. Numéro 2. L'organisation des Brahma Kumaris est la seule religion que je connaisse qui dise à ses membres « Plus vous serez efficace, plus vite vous donnerez le message, plus vous aurez de yoga, plus vous ferez de service, et plus vite vous mourrez, plus vite votre famille mourra, et plus vite la terre sera purifiée de tous ces humains impurs. » C'est extraordinaire qu'une telle religion puisse prendre de l'expansion. Numéro 3. J'ai toujours aimé le slogan du canard enchaîné, qui est « La liberté ne s'use que si on ne s'en sert pas. » J'oubliais, ne posez pas de questions. Ce sont les petits-enfants qui posent des questions. Quand on pose des questions, tout devient si compliqué. Vous devez avoir du discernement sans poser de questions. Vous ne devez pas utiliser votre intellect en dehors de la boîte de la connaissance. Vous êtes des enfants si innocents. Numéro 4. L'immense majorité des biquets sont de bonnes personnes qui œuvrent pour la paix, l'harmonie, la nature, la tolérance, le bonheur. On a juste à voir le grand nombre d'excellentes initiatives pour l'agriculture, la santé, le leadership, les jeunes, etc. La plupart y croient vraiment. Je souhaite que ces programmes se multiplient et fassent encore beaucoup plus de bien. J'aime rêver. Je suis un utopiste. Je propose qu'on change un peu nos croyances. Et qu'on ne garde la connaissance que ce qui est positif et constructif. Si les biquets laissaient de côté l'idée de la destruction en focalisant uniquement sur la construction et les solutions, je suis persuadé que les Illuminati ne pourraient pas réussir, que les destructions seraient minimes et que nous trouverions des solutions collectives pour faire de cette terre un paradis ici et maintenant. Le Raja Yoga deviendrait alors vraiment universel. Conclusion. On pourrait résumer cette page en disant 1. L'énergie divine est non violente. 2. Être un bon yogi et souhaiter la destruction sont diamétralement opposés. 3. Après la destruction, 7 400 000 000 de terriens seront morts et la terre sera dévastée. 4. Il est extrêmement peu probable que l'âge d'or apparaisse ensuite par pure magie. 5. Les survivants probables sont ceux qui ont de l'argent. Ils souhaitent entrer dans leur âge d'or. 6. Les biquets seront les dindons de la farce. 7. Shankar, une entité mystérieuse, semble jouer un rôle important et occulte. 8. Il serait fortement souhaitable que nous changions collectivement de concept pour quelque chose de plus optimiste et constructif. Mais je ne me fais pas d'illusions, cela ne se fera pas. 9. Les biquets semblent plus être les instruments des Illuminati que des instruments de Dieu. 10. Indépendamment de tout cela, présentement, les biquets aident de nombreuses personnes à améliorer leur vie. Cela fait partie de la stratégie de vente. 11. La mission des biquets semble plus la préparation d'un grand départ que la survie de l'humanité. En répandant l'idée que la destruction est bénéfique, en piratant l'énergie spirituelle mondiale pour provoquer cette destruction. Je souhaite la paix, l'amour, le bonheur à tous les êtres de la Terre et de l'univers.